C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Nous allons faire ce qui est nécessaire pour que les joueurs, l'équipe des Alouettes deviennent encore plus proches des Québécois, des Québécoises.
À chaque fois que tu arrives à un camp d'entraînement, t'es fébrile. T'as hâte de voir la nouvelle dynamique. Un nouveau président, un nouveau propriétaire, un nouveau corps arrière.
T'as un nouveau groupe d'entraîneurs également.
La première journée, il dit aux joueurs qu'il faut qu'ils apprennent leur numéro en français.
C'est la première fois que je vois ça dans le monde du football.
J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dans le vestiaire-là.
On a tout un objectif commun qui est de gagner la Coupe Grey.
Tout le monde nous disait que dans le fond, on était 9e sur 9. Mais ben là, on a la chance de te montrer qu'en fait, on est prêt.
Ça fait 13 ans que les Alouettes de Montréal ont pas participé à la Coupe Grey.
C'est le moment qu'on le sait qu'on est officiellement champion de la Coupe Grey.
16h42, c'est un extrait de la série documentaire Les Alouettes. Nouvel envol, Catherine est un invité de marque.
Oui, ça fait de la maudite bonne télévision quand une équipe de football se fait filmer pendant une saison complète et termine avec la Coupe Grey. Bonjour, Marc-Antoine Decoy.
Bonjour.
Marc-Antoine, cette série documentaire porte sur les Alouettes. On vous voit vraiment en coulisses pendant les entraînements avec les familles. Il y a beaucoup, beaucoup justement de joueurs qui présentent leur famille, l'aspect à la maison. Est-ce que ça a été facile d'accepter de se faire filmer en tout temps, en faisant partie des Alouettes pour ce documentaire-là?
Ben, je serais mal honnête si je dirais oui. On est parti. Moi, personnellement, je suis parti un peu avec un pied de recul. Je me dis, il y a une équipe de caméras qui va rentrer dans le vestiaire, qui va filmer nos journées complètes. Ils vont venir aussi dans notre vie privée. Puis je me disais, tu sais, début d'année, pour mettre en contexte, on avait un nouveau propriétaire, un nouveau coach en chef, un nouveau corps arrière.
Les experts, vous voyez à vos loin.
On se voyait loin, il y avait du travail à faire, puis j'étais comme, c'est-tu le moment pour? Et je suis content de ne pas avoir collé à shot, parce que ça a fait un très beau documentaire.
Est-ce qu'il y a eu de la réticence dans le vestiaire? Parce que ça peut, tu sais, dans le sport, surtout le sport professionnel, le vestiaire, c'est un sanctuaire.
Ouais.
Les journalistes viennent après le match, that's it. Là, tu as une équipe de tournage. Est-ce que c'est bien passé auprès des coéquipiers?
Ben, c'est ça. Puis quand les journalistes viennent après, on a un peu notre même discours qu'on a. On a nos mêmes tons parce qu'en général,
tu sais que t'es en représentation.
Exactement.
T'es filmé.
Mais là, c'est donner crédit à l'équipe de tournage, dans le fond, de production. Ils ont réussi à nous mettre un peu à l'aise. Puis moi, pour moi, c'était cette connexion que j'avais besoin avec qui me filmait pour les comprendre. Puis c'était quoi l'angle qu'ils voulaient attaquer. Puis quand on a eu cette discussion-là, quand on a fait plusieurs rencontres, puis on a vu qu'il y avait vraiment un bon fond, puis c'était vraiment une histoire qu'ils voulaient expliquer à notre façon, puis dans nos mots à nous autres, c'était après ça très facile de devenir naturel.
Est-ce que l'expérience Big Brother a payé pour toi, vu que t'étais habitué? Non, mais c'est vrai, tu parlais aux coéquipiers, t'étais le seul qui avait vécu ça, des caméras 24h sur 24.
Ben, les caméras sont cachées à Big Brother.
Okay.
Mais étonnamment, ils ont très bien réussi à se cacher.
Okay.
Des fois, là, ils étaient dans des coins de meetings, puis t'es voyais pas, puis il réussit à prendre des angles.
C'était naturel. C'était pas faké, là.
C'était aucunement, non. Je te dirais, au début, il y a peut-être des clips où est-ce que tu es un peu moins à l'aise parce que tu as la caméra dans la face, puis tout le monde vient voir, puis ils font des commentaires, genre, ben oui, la TV star, tu sais, c'est juste. Mais à la fin, c'est devenu un peu beaucoup, beaucoup plus, genre, naturel, je veux dire.
Avant qu'on entre en onde, je t'ai demandé si tu l'avais vu, le documentaire, parce que c'est pas la même chose de se faire filmer et après ça, voir le résultat fini. T'en penses quoi?
Ah, moi, évidemment, c'est sur notre histoire, puis pour moi, j'ai adoré pour plusieurs choses. Si t'es un fan de football, je pense que ça va être incroyable de voir le derrière les coulisses. Mais si t'es pas un fan de football, c'est le côté humain. Il y a quelque chose dans ce documentaire-là. Moi, je suis au courant des sacrifices que les joueurs de football font et que mes coéquipiers vont faire. Mais il y a quelque chose qui va vraiment, je pense, relativiser avec tout le monde. Le monde va se sentir un peu plus interpellé avec ça. C'est les sacrifices que tout le monde doit faire dans leur milieu de travail. Puis là-dessus, dans le football, c'est rien de différent d'un autre métier. Mais le nôtre, il est un petit peu plus différent des fois sur l'aspect de longévité où c'est un vrai 6 mois qu'on n'est pas là. Puis tu le vois, certains joueurs qui font ces sacrifices-là.
Il y en a qui ont deux emplois.
Ils ont deux emplois. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent avoir un deuxième emploi durant la saison morte, qui est après la saison. Puis il y a des joueurs, c'est des Américains, qui, comme Cody Fajardo, qui laissent sa femme et ses enfants pendant 6 mois de temps pour jouer au football.
C'est pas un sport de millionnaire. Là.
C'est exactement. Puis on fait pas des millions. Non. Tu sais, c'est pas le Canadien ici. Non. On n'est pas très, très. On est bien payé, mais pas assez pour après ça, pour rester là.
Il y a de la passion là-dedans. Là.
Oui, énormément de passion. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est fun de ce documentaire-là.
Et toi, Marc-Antoine, est-ce que tu as un autre emploi?
Non, moi, j'ai aucun autre emploi. Moi, j'ai étudié en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal. Puis après ça, j'ai joué au football. Je suis très choyé d'avoir un bon contrat qui me permet de pouvoir faire ça à l'année longue. évidemment, il faut que je budgette pour le 6 mois qui est pas rentré d'argent. Mais aussi, j'ai un peu plus de diversité dans mon salaire où est-ce que je vais avoir des apparences que je dois faire durant la saison morte. Comme
tu,
là, je fais un programme
en marketing.
Ouais, je fais un programme ensemble à l'école. Donc, on va dans les écoles parler de persévérance scolaire.
C'est fascinant parce que tu parles de ton parcours dans le premier épisode. Moi, j'ai vu le premier puis une partie du deuxième. Toi, t'as failli arrêter le football.
Ouais.
Tu t'es comme, à un moment donné...
J'ai arrêté.
C'est ça. Puis là, tu sais, je te regarde aller, je regarde où t'es rendu. En finale, la Coupe Grey, durant la dernière saison. Penses-tu des fois en disant, mon Dieu, j'ai failli perdre ça, j'ai failli jamais voir ça arriver?
Mais pourquoi t'as voulu arrêter?
Histoire courte. En fait, quand j'ai fini le secondaire, quand j'ai fini mon secondaire 5, j'ai eu une de mes pires saisons. Puis j'ai un moment excessivement difficile où est-ce que j'ai été mis dans une situation où est-ce que j'ai fait face à l'adversité. Et ça a été pour moi trop tough. Et j'ai abandonné parce que c'est la première fois que je faisais face à l'adversité. Puis j'ai dit non, pourquoi le football, c'est trop pour moi, c'est pas assez. Fait que j'ai décidé d'abandonner ça. Mais après ça, avec du recul, je me suis dit ça va être moi-même qui va être en pouvoir de ça. Et je suis revenu au football par après. Mais c'était un moment qui m'a vraiment fait re-questionner. Puis j'en avais besoin de ce moment-là.
On est content que tu sois revenu.
Marc-Antoine, on te garde. On va finir notre deuxième heure avec toi de retour après la pause avec Marc-Antoine de quoi des Alouettes.
Deuxième essai 10.
Le Québec maintenant.
Ils ont jamais cru en nous! Mais tu sais quoi, man? Gardez-la, votre anglais! Parce qu'on va prendre ces couples-là, puis on va ramener à Montréal! On va ramener au Québec! Puis on va ramener chez nous!
Un classique!
Il est plus posé dans notre studio, Marc-Antoine Decoy des Alouettes, qui vient nous parler de la série documentaire Les Alouettes, nouvel envol. Marc-Antoine, tu as fait un plaidoyer pour le français. Ton nouveau patron, Pierre-Carl Péladeau, aussi a fait plusieurs plaidoyers pour le français. En français, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça a changé l'arrivée du grand patron de Québécois à la tête du club?
Bien, ça a vraiment fait une énorme différence, surtout dans une équipe. Dans le fond, si la tête de la direction de cette équipe-là va décider un peu du parcours, on va dire, d'une équipe ou juste de la direction de l'équipe, puis quand ton propriétaire, c'est un Québécois, mais l'emphase a été mise sur la culture québécoise dans cette équipe-là. Puis après ça, quelqu'un comme Danny Machocha, qui est un Québécois aussi, puis qui comprend l'importance de dans le fond, d'avoir une équipe au Québec, mais aussi une équipe qui va valoriser un peu sa population, puis qui va valoriser un peu c'était quoi les Alouettes. C'est différent du reste du Canada. Fait que Jason Moss, il a aussi adhéré à cette idée-là.
On voit pas ça avec le Canadien de Montréal. Je trouve ça quand même... Ça gère ça bien au sein du vestiaire, parce que...
Parce que ça vient de... Tu sais, si c'était pas un propriétaire québécois, c'est sûr que lui, il veut juste que ça soit rentable. Mais Pierre-Carl avait cette... il avait un peu cette envie-là, là, que l'équipe revienne, cette fierté-là.
Vous avez vécu la ligue qui vous gérait, ce qui amenait pas nécessairement...
Puis de l'ancien propriétaire, Gary Stern, aussi, que c'était un peu un fiasco, on peut le dire.
On va le dire. Est-ce que ça aurait donné un aussi bon documentaire si vous n'aviez pas gagné la Coupe Grey?
Moi, je veux dire, voyons. Tu pars de dernier à gagner la Coupe, c'est sûr que non.
Mais est-ce que vous l'auriez sorti pareil?
C'est une bonne question, oui, je pense que oui. De toute façon,
tu perds encore finale, c'est un peu plate.
Ouais, moi, je pense que ça peut avoir...
Pour une prochaine saison, ça veut pas dire.
Parce qu'on a pris pour 8 épisodes. Fait que c'était les 4 premiers. Okay. Et là, il y en a 4 autres qui vont être filmés, mais qui sont filmés en ce moment, puis au début de saison. Fait que peut-être ça aurait créé une autre ligne narrative, mais c'est sûr que là, en ce moment, t'as la meilleure histoire. Tu pars de dernier à champion.
Oui, tu prends un 6-49.
Ouais, c'est ça. Rien scripté.
Marc-Antoine, de quoi? Comment ta vie a changé depuis cette célébrité instantanée qui est venue avec justement le cri du cœur, gardez-la votre angle?
C'est assez fou pour vrai. Je pensais qu'après Big Brother, peut-être ça allait changer, mais
c'est pas ça qui a fait la différence.
Non. Laisse-moi te dire que tu réalises qu'après quelques semaines, c'est bien oublié. Fait que,
non, mais pas c'est ça.
Mais moi, qu'est-ce qui m'a fasciné vraiment, c'est après ça, le monde qui venait me parler puis qui me contait leur situation, eux autres, dans leur contexte de travail, puis comment que ce speech-là. Tu sais, moi, j'ai dit ça dans mon élément. Moi, j'ai dit ça dans ma vie où est-ce que c'était. Je trouvais qu'il y avait une injustice-là, que moi, j'utilisais ça comme motivation. Puis j'ai nommé quelque chose qui était important, puis c'est sorti du cœur. Puis le monde a dit, moi, je me ressens la même affaire, telle affaire. Moi, je travaille à telle place.
Fait que ça a inspiré des gens.
Fait que ça a inspiré. Puis je trouve que c'est devenu plus gros que moi. C'est vraiment devenu plus gros que qui je suis, ce moment-là, dans un certain sens.
Est-ce que Pierre-Carl Péladeau est venu te parler après ça, sur cette déclaration-là, précisément?
On n'a jamais eu une discussion on a eu une discussion face après ça pour la game, mais jamais face à ça.
Ce que j'ai trouvé surprenant dans ta déclaration, c'est qu'on est à notre époque. Il y a une époque où il y avait la montée du nationalisme au Québec. Il y a des gens de tous les horizons qui prenaient fait et cause pour le français. disons que dans le sport professionnel, depuis 25 ans, les athlètes font pas des déclarations politiques comme ça.
Mais tu sais, moi, c'est ça l'affaire aussi avec cette déclaration par après, c'est que ça n'a pas rapport à un parti politique.
Non, non,
je pense que respecter la langue, c'est ça.
C'est une prise de position politique, Marc-Antoine.
Mais oui, dans ce sens-là.
Mais pas pour un parti.
Puis moi, c'était ça, c'était plus la protection de la langue française devrait être importante. Mm-hmm. Puis pour moi, dans une ligue que ça s'appelle la Ligue canadienne, que tu as le français et tu as l'anglais dans un pays qui a le français et l'anglais comme langue, ça devrait être respecté également, puis ça ne l'a pas été.
Parce que pour revenir aux sources de ton grief, c'est que tout ce qui était autour de la présentation du match, de la semaine des célébrations de la Coupe Grey, c'est en anglais.
Exactement. Puis qu'est-ce qui va être intéressant dans le documentaire, dans le dernier épisode, vous allez voir pourquoi j'ai un peu eu cette réaction-là, parce que ça a été parlé par notre entraîneur en chef.
OK.
Fait que vous allez un peu comprendre pourquoi c'est venu ça.
Parce le coach vous a pas
envie. L'idée est venue un peu du coach.
La vraie coulisse de documentaire.
Fait que vous allez vraiment comprendre un peu plus pourquoi ce discours-là. Comment il est un peu plus venu à la vie naturellement. Parce que quand tu as un coach qui motive ses troupes en disant qu'il n'y a pas de français dans le stade, ça motive
C'est un entraîneur qui est anglophone, mais qui a à cœur le fait français, si j'ai bien compris.
100%, puis c'est ça qu'il a compris. On l'a entendu dans la bande-annonce, c'est que je disais, la première chose qu'il dit aux joueurs, c'est apprenez votre numéro en français, puis c'est vrai, là. Il rentre, le joueur arrive des États-Unis, essaye de faire une équipe. Ouais, c'est ça. c'était excellent, puis il faut qu'il apprenne son numéro en français, c'est OK, le ton est mis.
Et les joueurs anglophones qui débarquent au sein de l'équipe, ils se comportent comment ils font pour communiquer? Y en a-tu qui apprennent le français ou on répète tout en anglais?
Ça, c'est quoi? Ça, c'est une chimie, une équipe. T'as besoin d'avoir une chimie parce que quand les
surtout
temps sont exactement, quand les temps sont difficiles, c'est facile, ça va bien. Mais quand les temps sont faciles, quand tu gagnes, c'est facile. Mm-hmm. Mais quand c'est difficile, c'est là qu'une chimie d'équipe vient pour sauver un peu le vestiaire. Puis nous, ce français-là était un peu qu'est-ce qui nous a tous regroupés ensemble. Wow, ça a été un peu ce noyau-là de là, les Français parlent avec les Anglais vont parler avec les Canadiens. Fait que là, tu vas voir un peu ce regroupement-là de joueurs, puis je pense que c'était qu'est-ce qui nous a soudés.
Merci beaucoup, Marc-Antoine
Decois. 11 avril, la TVA et TVA Plus.
Série de 4 épisodes.
T'as été notre porte-parole, mon homme.
Merci.
T'es aussi bon en entrevue que sur un terrain. Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ouais.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Hier, à 7h, nous étions encore sous le charme de cette éclipse totale de soleil que nous avons vécu tous ensemble. J'en parlais hier, c'était quelque chose de communautaire. C'était beau de voir tous ces gens qui voulaient se réunir avec leurs semblables, avec des étrangers, pour ne pas vivre ça seul. Et notre ami Boukhar Diouf était hier à l'Astrolabe du parc du Mont-Mégantic pour un événement qui était organisé justement pour l'éclipse solaire. 2500 personnes qui étaient sur place. J'aurais voulu lui parler hier, mais je comprenais qu'il était dans le jus et occupé à autre chose. Il est au bout du fil. Salut, Boukhar.
Salut, Patrick. Ça va bien?
Très bien. Raconte-moi ta journée d'hier.
Ah, c'était fantastique. C'était vraiment fantastique. Je pense que le terme communautaire est très bien choisi. C'est beaucoup de gens de toute origine qui étaient là. Et puis, et qui ont célébré cette référence commune. On n'a plus beaucoup de références communes.
C'est vrai.
Je pense que dans les années à venir, faire un bye-bye, ce sera pas facile. Alors du coup, on a un événement qui outrepasse tout ce qui est clivage au niveau de notre société et qui se déroule au-dessus de notre tête et qui est devenu une référence commune pour tout le monde. Les gens étaient émus, les gens pleuraient, je m'attendais pas à ça. Je me disais, oh boy, c'est très intense, vraiment. J'ai vu beaucoup de personnes pleurer. C'était très émouvant, c'était fantastique. Beaucoup d'enfants, d'ailleurs.
Boukhar, moi aussi, hier, quand les gens m'écrivaient, quand j'ai mis des gens en onde, c'est un commentaire qui est souvent revenu. Les gens ont crié spontanément, applaudi, et beaucoup ont pleuré.
Oui.
Pourquoi tu penses que les gens ont pleuré?
Oui, moi, je pense que c'est un spectacle qui nous dépasse. Hein? Je veux dire, il n'y a personne qui peut dire « j'ai signé la mise en scène ». C'est un spectacle qui nous dépasse et qui nous rappelle aussi notre petitesse, mais c'est aussi peut-être qu'il y a, au-delà de tout ça, il y a le fait que le soleil, notre attachement au soleil est assez, c'est un attachement qui est assez profond. Il est en nous, le soleil. C'est, on l'oublie, là, mais en réalité, la raison pour laquelle les animaux que nous sommes, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est qu'il y a un hasard cosmique qui a juste placé la Terre dans un étroit couloir du système solaire qui est compatible avec l'existence de l'eau à l'état liquide. Parce que si on était très proche, c'est l'évaporation, un peu plus loin, ce serait la glace comme sur Mars. Et donc, Et l'existence de cette eau-là a fait que, il y a un peu plus de 3 milliards d'années, la photosynthèse, un organisme capable de capter l'énergie du soleil et de transformer cette énergie en énergie chimique et le stocker dans les aliments que nous mangeons, ce qu'on appelle les organismes chlorophylliens, sont arrivés dans la biosphère. Et puis, c'est ça aussi. Donc, le soleil est en nous. Quelque part, on mange de l'énergie solaire, mais en canne, tu sais, en canette. Enfin, je pense que c'est assez imagé, mais c'est ça. Il y avait une publicité, Patrick, quand je suis arrivé ici, qui disait « Je t'offrirai des bouchées de soleil pour déjeuner ». Je pense que ça disait comme ça, ou des croissants.
C'est une chanson. C'est une chanson, oui, de Ginette Reno.
Ah oui, voilà. Alors ça, Ginette a tout compris. L'humain n'est rien d'autre qu'un mangeur d'énergie solaire en canne. Alors, et le soleil est en nous, c'est, je veux dire, d'ailleurs, quand on tue quelqu'un, on dit on l'a refroidi,
c'est vrai.
Je l'ai refroidi. J'ai tué son soleil intérieur. Au Québec, quand quelqu'un meurt, on dit il s'est éteint. Il s'est éteint et quelques minutes plus tard, on l'a enterré et on dit feu un tel. C'est comme si on vivait une éclipse, c'est, le soleil disparaît puis réapparaît tout de suite. Donc, il y a tout ça, je pense, que le soleil est en nous, puis dans un passé lointain, de voir une éclipse, c'était pas aussi... On pleurait pas puis on n'applaudissait pas, là.
C'était épeurant.
Ah oui, ils capotaient. Les Grecs, ils pensaient qu'ils ont été abandonnés par les dieux, c'est... Ils se rabattaient sur la superstition. En Chine, il y a longtemps, c'était des... Les gens pensaient qu'un dragon céleste avait attrapé le soleil, il fallait décrocher des flèches sur le soleil pour le libérer. Les Incas avaient les mêmes peurs. Et nous, maintenant, la science a réussi à nous dire, on va vous prédire exactement où ça va se passer, combien de temps ça va durer. Et tous ceux qui ont vu ça hier ont compris que c'est quand même fantastique, ça. C'est fantastique de voir qu'autrefois, les Galiléens et compagnie ont été prédatés pour avoir juste évoqué un tout petit peu ça.
Oui.
Et aujourd'hui, la science vous dit, regardez là, c'est là que ça va se passer. Et ça s'est passé exactement comme ça.
Bouka, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me parler de la réaction de leurs ados. Souvent des ados, tu sais, qui sont un peu plus renfermés, taciturnes.
Oui.
Et qui hier étaient... arrêtaient pas de parler, étaient soudainement là, ils s'assumaient dans leur émerveillement. T'as vécu ça avec ton fils Anthony, 16 ans. Comment il a vécu ça?
Ben, merci d'avoir amené cette question, parce qu'à un moment donné, j'ai vu Anthony, puis je me disais, mon Dieu, il est vraiment ébranlé pour vrai, puis c'est pas quelqu'un que je vois souvent ébranlé de cette façon-là. Puis à un moment donné, je le voyais, il était complètement déstabilisé. Lui, c'est quelqu'un qui tripe beaucoup à astronomie, donc il pourrait me donner des cours là-dessus, là, tu sais. Mais à moi, j'essaye tout le temps, tu sais, j'essaie tout le temps de le ramener. J'ai dit, c'est beau, c'est loin, mais regarde, c'est pas besoin d'aller aussi loin, tu vas voir. Il y a des choses encore plus extraordinaires juste dans la biosphère ici, parce que c'est une partie de nous qui se passe là. Hubert Reeves disait ça, on est des poussières d'étoiles, tu sais. Donc, tu sais, nous venons aussi des étoiles, tu sais, je veux dire, c'est... Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'ados, parce que j'en avais deux à côté de moi quand j'étais là au Mont Mégantic. Et puis les deux étaient complètement déstabilisés. Il y avait une jeune fille, une adolescente, qui était à côté de nous à pleurer à chaudes larmes. C'est fantastique quand même. Mais ça, c'est une référence fantastique. Moi, je trouve, et ce que j'ai trouvé encore plus extraordinaire, Patrick, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants sur place, des jeunes qui tripent astronomie, et tu les regardais tellement émus et habités que tu dis, ces gens-là vont être les prochains qui vont nous élever, c'est... Ils vont prendre là où on est, ils vont l'amener encore plus loin, cette science-là, beaucoup plus loin, parce que c'est aussi ça, moi, c'est la dimension catalysatrice que représente cet événement auprès des enfants. Ça m'a touché beaucoup.
Boucard, tu parles des enfants, je peux pas te laisser partir sans parler des écoles, des centres de services scolaires qui ont choisi de fermer les écoles par peur de l'éclipse. Ça a dû faire mal aux scientifiques en toi.
Ah, moi, j'ai écrit là-dessus il y a quelques semaines dans la presse. Mais moi, je pense qu'ils ont raté une belle occasion de faire de la pédagogie autour de cette chose-là. Je pense qu'on vit, c'est une société de peur, je sais pas. Parce que l'idée n'est pas de dire aux gens de regarder le soleil pendant que ça se passe, mais c'est juste d'avoir peur, de toute de peur, de la peur. C'est cette peur dont j'ai parlé là, qui paralysait nos ancêtres lointains devant les éclipses. Elle est encore là, elle a juste changé de forme en fait. Mais parce que au lieu d'avoir peur de que les dieux soient fâchés contre nous, on a peur de se faire ratatiner les yeux. Puis, je pense qu'ils ont manqué une occasion, parce que probablement que ces enfants-là, il y en a beaucoup là-dedans, peut-être qu'ils ne reviendront pas à une éclipse totale.
Boucard, tu sais, nos aïeux, tu parlais des Grecs tantôt qui lançaient des flèches contre le soleil pendant les éclipses, ben, ils avaient l'excuse de ne pas avoir développé une connaissance de l'univers, une méthode scientifique. On n'a plus cette excuse-là en 2024.
La peur, c'est un sentiment assez spécial. On dit devant la peur, l'humain est programmé pour trois réactions. Il fight, il devient très fort. Sonia Lupien est très meilleure que moi pour vulgariser ce sujet-là. Il fight ou il freeze, il gèle, hein, ou il fuit. Il y en a qui ont fui, ils sont enfermés. Il y en a qui ont gelé, puis il y en a qui ont dit, OK, il y a moyen de composer avec la chose-là parce que c'est trop déraisonnable comme peur, c'est trop gros, c'est trop gros. Moi je suis content d'avoir vécu ça avec mes enfants et puis qui voient ça puis qui ils ont été émerveillés puis c'est ça qu'il aurait fallu faire. Mais des fois la lourdeur bureaucratique dans nos écoles, c'est écœurant, là. C'est les administrations, je veux dire, je parle pas des enseignants, c'est des enseignantes. La lourdeur, c'est tellement lourd des fois que même changer une porte là-dedans, ça devient quelque chose de tellement compliqué. En tout cas, il y a beaucoup j'ai l'impression qu'il y a une grosse réflexion à faire autour de ça, pour vrai. Parce que de priver les enfants de voir ça, c'était magnifique, tu sais. De le priver de voir ça juste par une espèce de peur déraisonnée, c'est pas logique.
C'est pas logique, c'est la bonne expression. Boucard, c'est toujours un plaisir de te parler.
Merci, Patrick.
je rappelle que ton spectacle Nomo Sapiens, partout au Québec jusqu'en février 2025, les dates de spectacle sont sur ton site boucarddiouf.com.
Merci beaucoup.
Salut, merci.
Bye.
C'était Boucard Diouf.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le Québec maintenant.
Le meilleur indicatif de toute la télévision canadienne-française.
Xavier Caffeine.
Si je puis dire, oui.
Dites-le humblement.
Xavier Caffeine avec l'indicatif de Deux Hommes en or. J'ai quitté Deux Hommes en or parce que je vais faire la matinale ici dès le mois d'août 2025. Fallait me trouver quelqu'un qui me remplace, Catherine, et il est à ta gauche.
Il est à ma gauche. Première des choses, j'ai compris que tu étais remplaçable parce que je pensais que c'était pas le cas.
Tout le monde est remplaçable.
Ça reste à prouver là, hein? On n'est pas rendu là. C'est des grosses chaussures à chausser.
Vous avez reconnu la voix de Ricardo Larrivé.
Ricardo, écoute, quand j'ai entendu ton nom parce que je l'avais entendu avant d'avoir la nouvelle aujourd'hui, je me suis posé une question.
Ouais.
Moi, je trouve que tu es parfait, télégénique, tu sais, tu as de l'entregent, tu parles beaucoup. Es-tu capable de laisser parler les autres sans les interrompre?
Ouch! Ça va être le vrai défi. Et c'est la première chose que ma femme m'a dit.
Ça va être
super. Tu vas être obligé de te taire. Mais il y a quelque chose que je trouve beau dans tout ça, OK? C'est que toute ma vie, puis encore, puis pour tout le temps, moi, la cuisine, c'est ce que je suis profondément et ce que je vais. Mais pourquoi je cuisinais? C'était pas tant pour les recettes. C'est pour l'occasion d'amener des gens autour de la table, que tu sois à l'école avec tes amis puis ton lunch, ou que tu reçoives tes enfants, peu importe l'occasion. Le moment est toujours privilégié. Et avant, bien longtemps, avant de savoir qu'un jour j'aurais ce privilège-là d'appeler Patrick Patron, c'est-à-dire, cette émission-là, c'est un peu comme un repas pas de bouffe. C'est-à-dire que c'est des gens autour de la table qui discutent, qui jasent, qui sont curieux. C'est pas un tribunal, c'est un endroit qui est amusant, éducatif. Puis c'est ça, la cuisine. Puis c'est ça, manger avec ta famille puis tes amis. Alors moi, je me voyais dans ça. Ça m'a pas pris 3 mois, là. Moi, j'ai juste demandé à parler à Patrick, à Rosalie, puis à Jean-Philippe. Je voulais l'entendre, tu sais, de leur bouche.
Tu voulais savoir que t'étais le bienvenu à table.
Ben, c'est important de...
Qui a pensé à toi?
Ben là, écoute, honnêtement...
Toi, t'as pensé à toi?
Je sais pas, là. C'est pour moi qui peux répondre.
Moi, je voulais que ce soit Ricardo. Puis là, les gens disaient, ah, Ricardo. Je disais, regardez, je le sais que... Il n'a pas animé des talk shows, mais il pose des questions dans ses shows de cuisine. C'est une bête de communication. Il écoute. C'est un naturel. Et à chaque fois que Ricardo vient, que ce soit ici à la radio ou qu'il est venu à Deux Hommes en or, moi, j'ai toujours été soufflé par son magnétisme. J'ai dit, c'est le gars que ça nous prend. Bon,
tu sais, c'est beau, ça. Hein?
J'espère que quelqu'un a enregistré ça.
Est-ce que ça donne la pression, ça?
Écoute. Essayer de
parce que
suivre...
là, tu sors de ta zone de confort. Quoi.
Absolument. Essayer de suivre les traces de Patrick Lagacé.
Non, t'sais. Non, mais lâchez-vous, là.
Mais ce que je veux dire, c'est que, Patrick, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la politique, l'actualité, oui. Tout ça. Puis, mais je me vois comme un citoyen engagé. Il y a des trucs qui me passionnent plus que d'autres, parce que je me suis investi, par exemple, dans l'éducation alimentaire à l'école, tout ça. Mais je me dis toujours, lui... Il lit ça tous les jours, il l'anime tous les jours. Il y a comme, il pourrait improviser ce show-là, tu comprends, sans avoir rien comme préparation. Et puis moi, je suis un gars très préparé dans la vie. Tu sais, j'ai de l'air à aller un peu partout, mais je m'organise, je lis avant de faire une présentation, même avant de venir ici. Moi, hier à 2h du matin, j'écrivais encore des raisons pourquoi j'étais heureux de faire cette émission.
Ah oui, mais comme quoi? Comme une recette. Hein?
Comme une. Oui.
Puis qu'est-ce qu'il y avait dans ta liste?
Ben il y avait ce que je viens de dire, ouais. Le côté convivial de tout ça, et il y avait aussi l'autre chose où tu, grâce à cette offre-là, je pense que je vais pouvoir exorciser ma frustration que j'ai depuis 25 ans. Combien de reportages j'ai fait en anglais, en français, à travers le quasiment le monde pour la cuisine toujours, puis je rencontrais des gens extraordinaires avec des histoires et moi je savais que tout ça allait être coupé au montage. Parce que on focus sur une recette, sur un ingrédient, sur quelque chose de précis. Et l'histoire de cette femme-là, autochtone, à la ronge, personne ne va la savoir. Puis, et c'est important, ce bout-là. Et ce bout-là, je vais pouvoir enfin écouter cette personne-là, puis dire, raconte-moi-là ton histoire. Pourquoi tu as fait ça comme ça?
Est-ce que ça veut dire que tu vas... Parce que là, tu étais encore impliqué. Il y avait la cuisine d'Isabelle et Ricardo. Ouais. Tu avais encore un pied.
Mais je reste le producteur d'Isabelle.
Oui, mais est-ce que... C'est ça, je voulais dire. Est-ce que toi, tu vas te délaisser un peu l'aspect cuisine puis orienter ta carrière davantage dans les médias?
C'est pas orienter ma carrière. Je te dirais, c'est... Ce que Patrick a dit au début, c'est un
tout
merveilleux...
le producteur de quelqu'un d'autre.
Ben, c'est comme si j'ai pas Patrick à faire de la cuisine.
C'est un merveilleux contre-emploi qui correspond à ce que je suis hors des ondes en cuisine. Quand j'écoute les sujets de cette émission-là, c'est tout ce qui me passionne autour de la table. C'est les sujets sur lesquels je lis, je m'intéresse. Alors, moi, ma carrière, ça reste la cuisine.
Mais Ricardo, toi et moi, on a eu l'occasion en ondes et parfois, à quelques occasions hors d'ondes, de parler de la vie, tu sais, hors de la bouffe puis de tes projets. Ouais. Tu as été impliqué dans le Lab École.
Encore.
Tu l'es encore. On a souvent parlé de ça.
Oui.
Moi, j'étais pas dans les gens qui détestent le Lab École. Je trouvais ça...
Non, tu étais un sceptique au début pour toutes sortes de raisons qui sont valables,
exact.
Mais bon.
Et quand je te parle à toi, quand je parle à Pierre Thibault, quand je parle à Pierre... Pierre Lavoie, je parle avec des hommes qui ont plongé dans l'éducation. Toi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que ta palette est très, très large. Et il y a des gens, il y a des artistes dans le showbiz, puis je veux lancer la pierre à personne, chacun son métier. Quand ils se mettent à parler de quelque chose, t'as hâte qu'ils finissent parce que c'est assez mince. C'est pas ton cas.
Ben, moi, j'ai mes sujets. Tu sais, comme, moi, je chante pas, je danse pas. Il y a bien des affaires que je fais pas dans le milieu des communications.
Bienvenue dans le club.
Ouais. Je veux dire, Belle et Bum, je suis plein d'admiration pour tout le monde, hein, qui passe là. Mais moi, je suis pas capable. Ça marchera pas. J'aime ce qui touche la société, l'injustice ou la justice, l'équité auprès des enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quand aujourd'hui, Rosalie, elle me dit, bon, ça me fait bien plaisir de travailler avec un autre vieux monsieur blanc. Puis je me dis, OK, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, comme vieux monsieur blanc, pour améliorer la situation des autres qui n'ont pas cette chance-là? Puis des émissions comme ça, ça fait partie de ça, de donner une voix, d'écouter, puis d'essayer de...
Mais, OK, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu dis, moi, je danse pas, je sais pas, moi, je fais pas de cirque et tout ça, là. Mais es-tu capable de t'intéresser à autre chose que tes champs d'intérêt, que t'aimes d'emblée, là, qui sont naturels pour toi?
Ben, en fait...
Est-ce qu'on est capable d'aller te faire une entrevue sur autre chose?
Oui, absolument. Parce que, je veux dire, ça devient un défi. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un vient puis je ne connais rien à l'astrophysique...
Mais ça, ben, c'est inévitable.
Ben, je vais lire, je vais me renseigner, on a des recherches, ça. Puis l'avantage de ces émissions-là, c'est qu'on est trois. Parce qu'à un moment donné, je me disais... Je pense que c'est à toi que j'avais demandé. Je dis, ouais, mais tout à coup... telle personne vient, puis moi, je rêve d'y parler, puis finalement, c'est Rosalie qui fait l'entrevue.
Et ça arrive.
Ben, ça arrive, puis c'est normal, puis c'est tout correct.
Mais tu vas probablement avoir droit à une question ben, c'est dans ça. Son blog d'entrevue.
Parce que dans le fond, là, quand tu veux parler à une personne, souvent, c'est ça que toi, t'en as une question principale, puis ben, à trois, c'est un partage, on peut jaser ensemble.
C'est très collégial, et oui. Je te rassure, Ricardo, c'est une émission qui est montée. Fait que moi, ça m'est arrivé de poser des questions qui étaient peut-être un peu niaiseuses. On les coupe au montage.
Ouais, ça, c'est...
Ce qui n'est pas le cas comme à radio. Hein?
Avant que ça finisse, je veux te tester.
Ouais.
Tu reçois Catherine, on est à deux hommes en or. Quelle première question tu lui poses?
Ben, écoute, Catherine, pour l'avoir entendue longtemps, puis je m'étais... Un peu comme moi, quand elle a pris un peu la relève de Thérèse,
oui.
Je me disais, c'est des gros souliers à chausser. Est-ce qu'elle va être capable de prendre sa place? Ça t'a pris combien de temps de te sentir toi-même à l'aise puis t'es pas à la place de quelqu'un d'autre?
Excellente question.
Moi, je pense que j'ai toujours été moi-même, sauf que le contexte de l'émission, à un moment donné, a changé. On s'est mis à jaser davantage. J'ai l'impression que là, je faisais plus que de la chronique culturelle. J'avais ma personnalité autour de la table.
Oui.
Mais c'est le contexte... Là, je suis comme en entrevue dans ma propre émission.
Mais
c'est une bonne question, comme tu sais.
C'est parce que ton cas est pareil. Tu sais, je veux dire, maintenant, t'animes... T'es pas une chroniqueuse. Tu sais, puis ça, je trouve ça beau qu'on puisse être multi bien dans
sûr,
la vie. Moi,
sûr.
Aujourd'hui, ici, mais mon voisin peut être... Tu sais, on est tous multi. Il y a personne qui est bon juste dans une affaire.
Ben, tu vois, vous passez tous le test.
Bravo. Je suis très content que tu aies accepté, Ricardo, de faire deux hommes en or.
Attends, moi, je voulais faire un bémol parce que Ricardo nous a apporté une pile de magazines.
Oui,
dans la scène. Et là, je voulais juste te dire, Ricardo t'a fait un cadeau incroyable.
Quoi?
Tu as une façon de faire des recettes, de cuisiner toi-même des œufs Cadbury à la maison. Parce que Patrick, ça coûte une fortune. Il va acheter ça.
C'est mon seul péché mignon.
Il va acheter ça à la tonne au Costco. Fait que je me suis dit, gars, on va économiser des sous chez vous.
On trouvait ça cool de les faire à maison.
J'en ai fait venir sur Amazon. OK, on va arrêter. De parler de nous.
Ça,
Ricardo,
c'est
merci beaucoup. J'ai
merci.
Hâte de te voir en ondes. On va être là pour t'épauler, puis tu vas être très, très bon.
Je te remercie.
Et je termine sur une précision. J'ai dit tantôt que je commence l'émission du matin au mois d'août 2025. C'est 2024. Ça commence bien. Hein?
T'as stressé.
Le gars prend une année sabbatique, mais les boss.
Pour aller dormir.
La messagerie écrivait, il va-tu avoir un blanc durant un an?
Patrick Lagacé, en accéléré.
Il y a de plus en plus de parents, de professeurs, plein de gens dans la société qui sont préoccupés par la place des écrans, des réseaux sociaux dans la vie des enfants. Ça peut être dans leur vie personnelle, ça peut être dans leur vie à l'école, mais chose certaine, nos enfants passent beaucoup de temps devant des écrans. J'en ai parlé à ce micro, j'en ai parlé dans la presse, c'est un sujet qui me préoccupe, notamment sur ce que ça a comme impact sur le développement du cerveau chez les enfants. Et le Parti québécois, on le sait, a annoncé par la voix de son chef Paul Saint-Pierre Plamondon qu'il était temps de s'attaquer sérieusement au temps d'écran chez les jeunes. Et hier, ça a été un peu éclipsé par l'événement qu'on a vécu avec cette éclipse de soleil. Il y a le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui a dit que le gouvernement n'excluait pas de légiférer sur l'utilisation du temps d'écran. Il était à Tout le monde en parle dimanche dernier pour parler justement des écrans et des jeunes. Très content d'accueillir le pédiatre Jean-François Chicoine. Jean-François, salut.
Salut, Patrick.
Si le gouvernement est pour légiférer, par quoi est-ce qu'on devrait commencer à propos des écrans et des jeunes?
Il y a beaucoup d'éléments qu'il peut mettre en place. Premièrement, les éléments qui ont rapport à des actes violents, je pense au cyberharcèlement, au cyberprédateur. Alors tout ça mérite d'être hautement encadré, légiféré, puni, ou par des amendes, ou par même de l'emprisonnement, comme ça se fait en France et en Allemagne. Alors je pense qu'il faut suivre ça d'une manière beaucoup plus importante. On sait que l'intimidation scolaire existe de vivo là, dans une journée, mais qu'elle est vraiment extrêmement prévalente le soir, la nuit et les fins de semaine aussi, et qu'il faut intervenir là-dessus. Ça, c'est un premier élément. Je dirais qu'un deuxième élément, et ça, c'est une notion bien intéressante, je trouve, c'est la notion de maturité numérique, parce qu'il y a une maturité pour chaque chose. Il y a une maturité pour conduire, pour acheter de la drogue, des cigarettes, pour aller à la guerre, whatever. Alors, c'est quoi la maturité numérique? C'est l'âge où, finalement, chez un jeune adolescent, le jugement, la morale va être à la hauteur de sa personne et de son intelligence, et sera moins influencé par toutes sortes de circuits encombrés, biscornus, disent les spécialistes en sciences cognitives, par les connexions neuronales qui sont pas tout à fait achevées. Les lagages du cerveau, les neurones en trop, ils se terminent à 25 ans, mais mettons qu'entre 16 et 18 ans, ça va mieux qu'entre 12 et 14 ans. Autrement dit, la même personne peut être complètement différente dans son impulsivité, dans sa capacité de prendre des décisions. Alors, c'est quoi l'âge de la maturité numérique? En Floride, ils ont décidé que c'était 14 ans. Alors, je ne sais pas si ça vaut aussi pour leur président, mais c'est ça. En France, ils ont décidé que c'était 15 ans. C'est pas bête. Moi, je dis que c'est quelque chose entre 14 et 16 ans. Il faut toujours donner deux âges en pédiatrie, parce que ça dépend, ben, si c'est un garçon ou une fille, ça dépend de la maturité, puis ça dépend des expériences antérieures de vie, là. Ceux qui ont vécu beaucoup de blessures, de traumatismes, de défavorisation, des fois, ont des problématiques face au jugement. Donc, c'est vraiment un système de protection. Alors, comment ça fonctionne? Je commence à travailler là-dessus. Je suis pas un whiz kid, mais il y a une façon donc d'inscrire les enfants sur les réseaux sociaux à partir de l'âge de 13 à 16 ans. Et entre 13 et 15 ans ou 16 ans, l'inscription devrait être faite conjointement avec l'avis d'un parent par une reconnaissance ou une carte de crédit, exactement comme un parent peut vouloir que son jeune conduise ou pas à l'âge de 16 ans. Et là, en France, ça, c'est en place. C'est en train de se mettre en place. Ça a commencé à l'été 2023. Là.
Je veux que tu me parles des écrans dans les écoles, Jean-François, parce que toute la question à la maison, mais on est allé tout au numérique ou beaucoup au numérique dans les 10-15 dernières années, des écoles qui se vantent de tout faire en ligne, de tout faire sur des iPads, les tableaux numériques interactifs, etc. Là, tu vois des pays comme la Suède qui se disent « Ouais, on regarde le développement des enfants, peut-être qu'on va revenir au crayon et au papier. » Est-ce que c'est une bonne chose, les écrans institutionnels, institutionnalisés dans les écoles?
Non, ça m'a toujours été, ça m'a toujours apparu, moi, comme une patente à la mode. Je pas trop parlé au début, parce que je trouvais que les parents sont probablement dans la même position que moi. Ils se disaient, bon, on est dépassés, on veut que nos jeunes soient modernes et tout. Donc, on a accepté beaucoup, beaucoup d'éléments. Et puis, tranquillement, ben, on s'est aperçu que, ben, ça faisait rien de mieux que d'écouter, que de prendre des notes à la main et tout. Puis, au contraire, ça faisait moins bien. Beaucoup pour certaines activités, notamment la mémoire. La mémoire, la mise en mémoire, la mémoire de travail, elle fonctionne mieux s'il n'y a pas d'écran devant nous, si on lit pas sur un écran aussi. Alors, clairement, et c'est à la maternelle, évidemment, à l'école primaire, évidemment, et certainement dans les premières années du secondaire, il n'y a aucun effet bénéfique à utiliser des écrans dans l'activité pédagogique. Ce qu'on savait depuis le départ et qui a été toléré aussi, je n'ai jamais compris pourquoi, c'était l'intervention du cellulaire, ouvert ou fermé, là, dit l'INSPQ dans sa revision des données. C'est un rapport qui a été présenté tout récemment parce qu'il distrait. En fait, le cellulaire suppose qu'on est capable de faire deux activités en même temps, ce qui est déjà difficile pour des adultes et ce qui est impossible à faire à l'adolescence. On sait très bien que le stockage en mémoire, la concentration, l'attention va être diminuée du tiers à la moitié, même aux trois quarts chez énormément d'enfants. Donc, le simple fait d'avoir toléré le cellulaire dans les écoles est quelque chose qui était délétère. Là, on a mis une loi, il faut l'appliquer aussi. Et quand je dis ça pour l'école, je dis ça aussi, mais là, pour des raisons sociales, pour la récréation, pour les vestiaires, pour la cafétéria, si on veut donner à manger, là, comme il y a des programmes alimentaires qui semblent poindre pour le midi, ben, il va falloir que ces cafétérias-là soient libres de, d'accès aux réseaux sociaux et que l'utilisation, en fait, des cellulaires sont interdites dans ces lieux-là.
Jean-François, merci de participer à cette conversation. Je pense qu'elle est très importante. La place des écrans, des réseaux sociaux sur le cerveau, le développement de nos jeunes, on va avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir pris
le temps. Merci, Patrick, pour soutenir tout cela. Bonne journée à tout le monde.
À la prochaine. Docteur Jean-François Chicoine est pédiatre, prend souvent la parole, vous l'avez entendu, à Tout le monde en parle avant-hier là-dessus, sur les écrans. Il y a plusieurs profs qui m'ont écrit, là, j'ai souvent parlé de ça à ce micro, j'ai parlé de ça dans la presse. Il y a des profs qui ont décidé d'interdire le cellulaire, de limiter le nombre d'écrans dans leur classe, et ces profs-là voient une différence importante dans l'attention des élèves, dans leur capacité à retenir de la matière, et aussi dans, disons, l'envie de participer aux discussions en classe. Il y a des profs de cégep qui m'expliquaient, quand ils ont leur téléphone, puis tu veux qu'ils participent à des débats, à des conversations, dans une classe de sociologie, de philosophie, t'as des yeux de poisson frit devant toi. Quand tu dis pas de téléphone, mais soudainement, ils se mettent à participer. Donc, la conversation est commencée, je suis content. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le projet de légiférer à Québec. M. Carman n'a pas donné de détails, il faudra en avoir plus. Encore faut-il légiférer sur les bonnes choses.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.